Bienvenue sur France Culture, si vous nous rejoignez maintenant, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les forces kurdes se préparent aujourd'hui une offensive terrestre turque après les bombardements qui ont marqué la veille le lancement de l'offensive d'Ankara dans le nord de la Syrie.
Dans votre journal également, en Allemagne, au lendemain de l'attentat qui a fait 2 morts et 2 blessés graves, les plus hauts représentants de l'État sont attendus aujourd'hui à la synagogue de Halle.
Oui, et ce alors que les critiques fusent désormais dans la communauté juive qui exige une meilleure protection.
Jour J à Lyon pour la mobilisation mondiale contre le sida, le paludisme et la tuberculose.
C'est ce soir en effet qu'on connaîtra le nouveau montant que pourra consacrer le Fonds mondial pour tenter d'éradiquer ces 3 maladies infectieuses à l'horizon 2030. Menacée depuis plusieurs semaines, l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon, qui emploie 619 salariés, fermera ses portes d'ici la fin de l'année prochaine, annonce faite ce matin par le géant français du pneu. Enfin, comme chaque jeudi, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec l'annonce de non pas un, mais 2 prix Nobel de littérature dans une petite demi-heure. Et cette question, la littérature raconte-t-elle toujours le monde? Nous en parlerons avec notre invité, Charles Dantzig.
Merci et à tout à l'heure. Après que le président américain lui aura donné son accord formel dimanche dernier, et quand bien même Donald Trump a pu sembler se raviser depuis, allant jusqu'à se risquer à mettre en garde son homologue turc, 3 petits jours à peine auront donc suffi au sultan d'Ankara, l'autocrate Recep Tayyip Erdogan, pour mettre ses menaces à exécution. C'est d'ailleurs par un tweet, le canal de communication favori du locataire de la Maison Blanche, que l'homme fort du Bosphore a annoncé hier le début de ses opérations contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Or, ni le doux nom donné à cette offensive, baptisée Source Paix, pas plus que la lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, dans laquelle la Turquie assure que son opération militaire sera proportionnée, mesurée et responsable, ne laisse de place au doute quant aux conséquences désastreuses d'une telle attaque. Déjà un premier bilan des frappes visant les positions des YPG fait état d'une 10 morts, dont des civils, des blessés, mais aussi des milliers de déplacés fuyant les zones bombardées. Et puis au moins, tout autant que le probable bilan humain de cette opération, c'est la résurgence possible de l'organisation État islamique qui est aujourd'hui dans tous les esprits. Preuve de cette menace, la nuit précédente, l'offensive turque Daesh a mené au moins 2 attaques dans le nord de la Syrie. En d'autres termes, le risque bien réel existe à présent que cette invasion qui prétend déloger ceux-là même qui depuis plusieurs années se battaient contre les djihadistes aux côtés de la coalition internationale, mais qu'Ankara considère comme des terroristes, ne provoque un nouveau conflit interminable dans ce qui était pourtant jusqu'à aujourd'hui l'une des régions les plus sûres et les plus stables de Syrie. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors à la demande de 5 pays européens, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir à huis clos ce matin. De son côté, le Congrès américain a promis à la Turquie des sanctions dévastatrice si elle continue son offensive. De nombreux pays arabes dénoncent vivement cette attaque. Bref, le concert de gesticulations diplomatiques habituelles, sauf que l'indignation, Bertrand, n'a non seulement jamais empêché a priori les guerres, mais le plus souvent sert aussi et surtout à se déculpabiliser.
En sachant que la responsabilité de cette affaire incombe entièrement à 2 acteurs, la Turquie, naturellement, qui a décidé cette attaque contre la zone kurde en territoire syrien, et les États-Unis qui ont implicitement donné leur feu vert à Erdogan pour lancer ses troupes dans cette aventure. Les Européens, eux, ont prévenu, mis en garde, dénoncé. Ils appellent à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se tiendra ce soir à la demande des pays d'Europe, membres permanents ou non permanents de l'actuel Conseil de sécurité. Le résultat s'annonce peu convaincant, même si avec Donald Trump, tout est possible. Les États-Unis et la Russie ne devraient pas être très allants contre la Turquie. Sergueï Lavrov se contente de demander des négociations entre Ankara et Damas. Pékin veut le retrait des troupes turques, mais le seul moyen pour stopper l'opération en cours serait l'envoi de casques bleus, hypothèse peu probable pour l'instant. Sur le plan militaire, l'Europe, une fois encore, ne peut que constater son incapacité à intervenir. Ses moyens de pression sur le gouvernement turc sont limités, mais pas inexistants. Par exemple, en mettant définitivement un terme aux négociations d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, qui sont actuellement gelés. Même si Ankara menace toujours de laisser déferler vers l'Europe les 3 millions de réfugiés de toute nationalité qu'elle héberge sur son sol, faute de pouvoir les installer en zone kurde. L'autre levier d'action sur la Turquie s'appelle l'OTAN. Les Turcs, qui se fournissent en missiles auprès des Russes, n'ont déjà plus la confiance des Américains au sein de l'Alliance Atlantique. Les exclure serait un geste fort, mais aux conséquences imprévisibles.
Merci Bertrand Galichet. Homme d'affaires et des média, Nabil Karoui, personnalité controversée en Tunisie, longtemps proche du pouvoir avant de se placer comme un candidat opposé à l'élite politique en place et sorti de prison hier, 4 jours avant le second tour de la présidentielle. Celui qui reste toujours inculpé de fraude fiscale et blanchiment d'argent va ainsi pouvoir faire campagne librement avant son duel qu'il opposera dimanche prochain au juriste indépendant et conservateur Kaïs Saïed. Et puis toujours en Tunisie, cette libération aura en partie éclipsé la publication attendue hier des résultats provisoires des législatives, résultats qui viennent confirmer l'émiettement du Parlement. Arrivé en tête, le parti d'inspiration islamiste Ennahda est très loin malgré tout de recueillir la majorité requise pour former seul un gouvernement, de quoi augurer de difficiles tractations entre des formations profondément divergentes pour former une coalition. Après le meurtre, c'était en juin dernier, d'un élu pro-migrant du parti conservateur de la chancelière Angela Merkel, attribué à un membre de la mouvance néo-nazie. L'attentat antisémite et raciste perpétré hier à Halle a créé non seulement une onde de choc à travers tout le pays, mais fait ressurgir par ailleurs les craintes d'un terrorisme d'extrême droite qui veut en finir aujourd'hui avec la culture du repentir national pour les horreurs du Troisième Reich. Hier, jour de Yom Kippour, la grande fête religieuse juive, un Allemand de 27 ans a fait irruption devant les portes d'une synagogue où il avait l'intention de commettre un carnage. Les portes ayant résisté, il a ensuite tué une passante, puis le client d'un restaurant turc à proximité avant d'affronter la police qui finira par le blesser, puis l'arrêter lors d'une course-poursuite. Ludovic Piétenu, bonjour.
Oui, bonjour Thomas.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Alors, après qu'Angela Merkel se soit rendue hier soir à la synagogue de Berlin, ce matin, le président de la République, Steinmeier, s'est lui rendu à Halle. Un peu plus tard, ce sera d'ailleurs au tour du ministre de l'Intérieur. De même que le président du Conseil central des Juifs d'Allemagne, lequel ne décolère pas. Il juge scandaleux que la synagogue visée par le tireur n'ait pas fait l'objet d'une protection policière en ce jour particulier. Et puis au-delà, c'est même toute la communauté juive en réalité qui exige à présent une meilleure protection et une mobilisation accrue contre l'extrême droite politique en plein essor.
Oui, c'est le visage fermé que Frank-Walter Steinmeier, le président de la République fédérale d'Allemagne, est arrivé il y a une dizaine de minutes, avec un peu de retard sur l'horaire prévu sur ce site de la synagogue. Il a déposé une gerbe, il s'est recueilli un long moment, un très long moment, aux côtés de la communauté juive de Halle, aux côtés de son épouse, aux côtés du ministre président de Saxe-Anhalt, qui est rentré de l'étranger hier soir en toute urgence. Ce sont donc les premiers officiels, la première photo officielle. Ils ont posé face aux caméras, aux photographes très 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 nombreux, beaucoup plus aujourd'hui qu'hier devant la synagogue d'Halle. C'était la première photo, voilà, officielle, politique, des autorités politiques après cette attaque hier contre cette synagogue et contre le restaurant turc, ce kebab un petit peu plus loin dans le centre-ville. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment ce moment de recueillement ne va pas écraser la polémique, le début de polémique que vous avez évoqué, Thomas. Évidemment, l'Allemagne n'est pas un pays où la polémique fait rage tous les 4 matins. Ce n'est pas comparable du tout à ce qui peut se produire en France parfois. En Allemagne, c'est beaucoup plus serein, le débat en général est beaucoup plus posé, et pour qu'il y ait polémique comme celle qui est en train de naître ces dernières heures, c'est que l'heure est grave, Thomas, véritablement. Et c'est vrai que les mots du président du Conseil central des Juifs d'Allemagne sont forts. Il parle d'une brutalité, d'une attaque qui dépasse tout ce qui s'est passé ces dernières années. C'est un choc profond, dit-il. La communauté est profondément préoccupée et effrayée. On compte en moyenne une agression physique chaque semaine contre un juif en Allemagne. Le président, toujours du Conseil central des Juifs d'Allemagne, reproche à la police de Halle de ne pas avoir protégé cette synagogue pour la fête de Yom Kippour. C'est scandaleux, dit-il. Cette attaque va-t-elle réveiller l'Allemagne, qui était un peu une belle endormie face à cette menace d'extrême droite? Les gens ici m'ont dit, il est temps que le combat contre l'antisémitisme reprenne toutes ses forces, toute sa vigueur dans ce pays.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Halle. À une semaine d'un sommet européen crucial pour éviter soit une sortie sans accord aux conséquences douloureuses, soit un troisième report du Brexit au risque de prolonger l'incertitude. Le Premier ministre britannique Boris Johnson rencontrera aujourd'hui son homologue irlandais à la veille d'une visite à Bruxelles pour d'ultimes pourparlers. L'UE a donné jusqu'à demain à Londres pour lui présenter un compromis acceptable. Le Parlement européen a convoqué la candidate commissaire française Sylvie Goulard pour une seconde audition ce matin afin de lui permettre de dissiper les doutes sur son intégrité. Des questions demeurent après sa mise en cause dans une enquête sur des emplois fictifs d'assistants des eurodéputés du Modem. Et puis, des interrogations ont également été émises sur les activités ayant justifié de très importantes rémunérations obtenues lors de sa collaboration pour un think tank américain alors même qu'elle était députée européenne. Alors, après sa première audition manquée, celle qui est aujourd'hui pressentie pour le portefeuille de commissaire responsable du marché intérieur, de l'industrie, du numérique, de la défense et de l'espace, a-t-elle convaincu? Élément de réponse avec notre correspondante Angélique Bouin.
Droite dans ses bottes, Sylvie Goulard dit à plusieurs reprises comprendre les interrogations des élus. Mais pas question de s'engager à démissionner automatiquement en cas de mise en examen. La candidate dit en avoir parlé avec la future présidente de la commission. Cette automaticité risquerait de devenir une règle au niveau européen, mettant en danger, dit-elle, l'indépendance de la commission. Si cela arrivait, je prendrais cette décision en fonction du contexte et de mes échanges avec Ursula von der Leyen, répète-t-elle à chaque nouvelle attaque de députés. Sylvie Goulard qui rappelle à deux reprises que le Parlement, la partie lésé dans l'affaire, a classé le dossier. Quant à son travail grassement rémunéré par une fondation américaine alors qu'elle était élue, ce n'était pas un lobby mais un club de réflexion, insiste-t-elle. Ne craignez-vous pas l'image que ces 330 000 euros perçus renvoient de vous-même aux citoyens et aux plus pauvres, lui lance Manuel Bompard de la France Insoumise. Sylvie Goulard fend l'armure, visiblement blessée. Elle rappelle son travail en faveur de la lutte contre la pauvreté alors qu'elle était eurodéputée.
Vous pouvez effectivement réduire le combat d'une vie à un contrat de consultance pendant 2 ans. Je tiens simplement à rapporter ici un fait, c'est que justement, pendant plusieurs années dans ce Parlement, j'ai été membre de l'intergroupe de lutte contre la pauvreté et je l'ai présidé. Moi, je suis devant vous aujourd'hui, je vous demande simplement de prendre en compte l'ensemble de mon parcours, avec ce qui peut vous plaire et ce qui peut peut-être déplaire ou être jugé comme étant moins opportun. Une vie, c'est ça.
Une audition difficile avec des questions répétées sur son intégrité auxquelles elle n'a pas toujours réussi à répondre avec clarté.
Le gouvernement social-démocrate roumain ne tient plus qu'à un fil face à une opposition qui joue son vatou aujourd'hui pour renverser la première ministre lors d'un vote de défiance, le tout à un mois de la présidentielle. Un vote dont le résultat est aussi attendu avec impatience à Bruxelles où la première candidate au poste de commissaire roumain a été retoquée, je vous le rappelle, par les eurodéputés. Or, la future présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, ne se prononcera pas sur le nouveau candidat roumain proposé par la première ministre tant qu'elle ne saura pas si cette dernière reste ou non aux commandes du gouvernement. Après que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a exhorté hier les contributeurs du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à intensifier leur engagement pour envoyer un signal fort et ambitieux ce matin, c'était au tour d'Emmanuel Macron de tenter de resserrer les rangs autour d'un objectif de levée de fonds difficile à boucler. Devant les quelques 700 participants à cette conférence de 2 jours convoquée à Lyon, le chef de l'État a dit vouloir obtenir 14 milliards de dollars minimum d'ici ce soir, soit 2 milliards de plus que lors de la précédente conférence. Mathilde Imberti, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez assisté à l'allocution du chef de l'État ce matin. Alors la France, historiquement le deuxième contributeur, devait elle-même annoncer une augmentation de sa participation. On parlait d'une hausse possible de 25%. Au final, Mathilde, les objectifs de Paris ont-ils été atteints?
Alors, c'est plus 15% de contributions françaises qui ont été annoncées pour les 3 prochaines années. C'est un petit peu moins que les 25% effectivement auxquels s'attendaient les associations qui sont un petit peu déçues pour l'instant. Mais on attend ici à Lyon le chiffre définitif. Ce matin, Emmanuel Macron a donc ouvert le bal. Il a lancé cette conférence et il s'est lancé dans un plaidoyer.
Les mois et les années qui viennent sont déterminants dans cette bataille. Nous n'avons non seulement pas le droit de reculer, mais nous avons la possibilité d'éradiquer ces maladies, de sauver 16 millions de vies dans les années qui viennent, de prévenir 234 millions d'infections et d'éradiquer d'ici 2030 ces maladies. Nous avons demandé à tout le monde d'accroître de 15% la contribution. Et donc, la France sera évidemment au rendez-vous de cette augmentation, avec une augmentation de 15% de notre contribution à la hauteur de notre mobilisation.
Alors, l'objectif, vous l'avez dit, c'est 14 milliards de dollars. Pour y parvenir, les financeurs privés sont également sollicités. À ce titre, deux personnalités sont à Lyon. Le milliardaire Bill Gates, premier contributeur privé à ce fonds de lutte contre le sida, et le chanteur Bono, avec son ONG One. Bono qui a passé des coups de fil, dit-on, une partie de la nuit pour faire grossir la cagnotte. La contribution finale doit être annoncée, écoutée d'un instant à l'autre. Des fonds qui doivent servir à éradiquer les trois maladies, sida, tuberculose, paludisme, à l'horizon 2030.
Merci Mathilde Imberti en direct de Lyon ainsi qu'à Nicolas Mathias pour les moyens techniques. C'est franchement une trahison et une honte, réaction ce matin de Jérôme Lorton, délégué syndical central Sud Michelin, après que le groupe français a annoncé son intention de fermer le site de La Roche-sur-Yon d'ici la fin 2020. Voilà plusieurs semaines déjà que l'usine qui emploie 619 salariés était menacée et finalement le coup près est donc tombé ce matin. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors on savait les salariés du site de Vendée sur la Sellette, d'autant qu'il y a deux semaines déjà, le groupe au Bibendum avait annoncé la fermeture d'ici à 2021 d'une autre usine, celle de Bamberg en Allemagne. Et pourtant, le géant français du pneu reste a priori une entreprise rentable. Qu'est-ce qui justifie, Hakim, cette accumulation de mauvaises nouvelles ?
Oui, Michelin, numéro 2 mondial du pneu, justifie la fermeture de son site par un manque de rentabilité face à une concurrence mondiale qui s'est intensifiée ces dernières années, notamment avec la Chine, qui, même si elle ne fait pas de pneus haut de gamme, comme Michelin, est en général très active sur le volume des pneus intermédiaires, un marché très porteur. Un discours qui peut aussi paraître interrogateur, avec un regard différent pour le constructeur, puisque ces dernières années, eh bien, Michelin a réalisé beaucoup de marge au dernier trimestre. Autrement, sa marge opérationnelle était de 12,2%, ce qui reste élevé pour le secteur de l'industrie des camions. Quand on sait qu'un pneu produit à La Roche-sur-Yon coûte 70 euros et qu'il est revendu ensuite entre 400 et 500 euros au constructeur. Il y a donc là une volonté de la part de la direction de réduire ses coûts, mais aussi d'accroître ses marges en privilégiant ses sites en Europe de l'Est, ce que dénoncent les syndicats. Du coup, au niveau social, pour tenter de limiter la casse sur le front de l'emploi, Michelin va proposer à ses salariés français des reclassements internes, notamment dans le Maine-et-Loire, à Cholet, mais aussi externes, ainsi que des départs en pré-retraite. 120 millions d'euros ont déjà été provisionnés pour ces opérations. Des reclassements qui ne feront pas l'affaire de tous les salariés, qui ne voudront pas ou ne pourront pas forcément tous partir travailler dans d'autres régions avec leur famille. Michelin emploie aujourd'hui en France 20 000 personnes.
Merci Hakim Kasmi. Les suites du procès de l'attentat raté de Notre-Dame en septembre 2016. Une voiture remplie de bonbonnes de gaz avait été, je vous le rappelle, retrouvée en face de la cathédrale. Et c'est ainsi que depuis le 23 septembre dernier, 8 personnes au total sont jugées devant la cour d'assises spéciale. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place. Alors au fil des audiences, les femmes dans le box des accusés ont raconté tout à la fois leurs aspirations et leurs pratiques singulières dans cette sphère djihadiste. Et ce matin, Antoine, la cour a entendu les plaidoiries des parties civiles.
Et notamment l'avocat de policiers et d'une association de victimes du terrorisme. Maître Thibault de Montbrial débute sa plaidoirie de façon très solennelle. Nous avons le triste privilège d'être les premiers avocats à plaider devant la cour spécialement constituée pour répondre à la série d'attentats en France. Vous allez prouver que, face à une vague criminelle d'ampleur, la République a la capacité de faire face grâce à son institution judiciaire. L'avocat décrypte le terrorisme islamiste. Son but est la déstabilisation des institutions pour propager une idéologie. Le djihad, c'est une doctrine politique construite à partir d'un texte religieux. L'avocat, qui est un habitué de ce type de dossier, fait une constatation. La défense a systématiquement le même fonctionnement. Elle minimise les faits quand elle ne peut pas les dissimuler. Le terrorisme islamiste ne s'assume pas. La défense échafaude à chaque fois un rideau d'arguments. L'emprise psychologique, l'isolement social, les faiblesses psychiatriques. Et dans ce dossier, on n'échappe pas à cette règle, selon Thibault de Montbrial. La défense laisse penser que les accusés ont agi uniquement parce qu'elles ont eu des faiblesses. Moi, je pense que ces personnes ont agi avec leurs faiblesses, certes, mais dans un cadre idéologique parfaitement assumé, assure l'avocat. Il décrit Inès Madani comme une figure majeure du djihadisme français, qui a la haine de la société, une experte en manipulation qui s'est faite passer pour un homme pour entraîner d'autres femmes, loin de la petite fille égarée, décrite par la défense. Ornella Gilligman est-elle l'amoureuse transie décrite par ses avocats? Il y a bien eu passion amoureuse pour un prince charmant virtuel, selon Thibault de Montbrial, mais elle était déjà salement radicalisée. Et il conclut, Ornella Gilligman n'a pas basculé à cause de l'amour, mais bien avant.
Merci Antoine Marette en direct de la Cour d'assises spéciale. Le scandale avait jeté une lumière noire sur les coulisses d'une institution rongée par les intrigues et les prébendes jusqu'à ébranler le récit national d'un pays luthérien édifié sur les valeurs de transparence, de probité, d'égalité, finalement sorti du purgatoire où l'avait jeté un scandale d'agression sexuelle. L'Académie suédoise annoncera exceptionnellement d'ici quelques minutes les noms de deux lauréats du prix Nobel de littérature, dont au moins une lauréate si l'on en croit les oracles. Comme chaque jeudi à présent, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Et à mes côtés pour vous interroger, Pierre Neveu. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Une première question monsieur Chenu. J'évoquais en début de ce journal l'attentat perpétré hier en Allemagne. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui dénoncent un relent d'antisémitisme outre-Rhin dans un contexte d'essor continu de l'extrême droite politique. Comment réagissez-vous ?
Je ne fais pas de lien entre l'extrême droite politique et des nazis. Je condamne cet attentat de toutes mes forces, comme tout acte antisémite, comme toute relation de près ou loin avec ces néo-nazis qui visiblement ont perpétré cet attentat. Je le condamne de toutes mes forces, tout comme, je vous le répète, tout acte antisémite. Pour le reste, les discours politiques des partis politiques allemands sont ce qu'ils sont. Je ne les connais pas, pour être très honnête, mais je crois qu'il ne faut pas amalgamer les responsabilités d'hommes et de femmes politiques allemands, et puis un attentat néo-nazi qu'il faut condamner, réprimer, sanctionner de toutes nos forces. On connaît trop notre histoire.
Question à Pierre Neveu.
Vous l'avez entendu dans le journal, le Parlement européen a une nouvelle fois auditionné Sylvie Goulard avant de décider de lui confier ou non le poste de commissaire européen chargé du marché intérieur, de l'industrie, du numérique, de la défense, de l'espace. On parle là d'intégrité. Monsieur Chenu, doit-elle siéger à la Commission de Bruxelles ?
Madame Goulard, si elle avait un peu justement de dignité, aurait répondu aux questions qui ont été posées ces derniers jours par les parlementaires européens de tous les bords. Je vois qu'elle n'a pas fait la lumière sur les relations qu'elle entretient avec un think tank américain de mémoire, pour lequel elle a été largement, grassement rémunérée. Elle ne répond à aucune question, considérant finalement que les questions bien légitimes qu'on peut se poser sur sa probité ne viennent pas obérer sa capacité à être commissaire européen. Moi, je pense que Sylvie Goulard abîme notre pays en agissant ainsi. Je pense qu'elle détériore non seulement l'image de l'Union européenne qui n'en a peut-être pas besoin, mais surtout l'image de la France. Et ça me chagrine plus que de raison. Madame Goulard devrait en tirer les conséquences, renoncer à être commissaire européen. Elle a visiblement d'autres préoccupations. Elle avait visiblement jusqu'à présent d'autres préoccupations politiques et financières.
Sébastien Chenu, êtes-vous bien placé pour parler d'intégrité puisque la justice soupçonne le Rassemblement national d'avoir utilisé des fonds alloués par le Parlement européen pour rémunérer vos assistants parlementaires alors qu'ils travaillaient pour votre parti ?
Oui, monsieur, je suis aussi bien placé, par exemple, que le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que nous sommes présumés innocents. Il faut le rappeler, monsieur, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre question. Il faut rappeler que lorsqu'il y a une mise en examen, il y a une présomption d'innocence. Je crois que ça a été suffisamment chanté sur tous les toits pour Richard Ferrand, pour un certain nombre de ministres macronistes. Nous sommes aussi bien placés que les ministres macronistes pour parler d'intégrité, peut-être même davantage d'ailleurs, parce que nous, à la différence de cela, nous sommes poursuivis matin, midi et soir par les médias, où vous venez d'en faire la démonstration qui ne précise pas que nous sommes présumés innocents, alors que c'est le cas pour tout le monde.
Monsieur Sébastien Chenu, en début de semaine, le président de la République Emmanuel Macron a appelé à la vigilance généralisée pour combattre l'hydre islamiste. Aujourd'hui, devant la commission des lois du Sénat, le ministre de l'Intérieur dit qu'il est de la responsabilité d'un policier ou d'un gendarme d'assumer la dénonciation d'un phénomène de radicalisation. N'y a-t-il pas là un risque de stigmatisation des musulmans dans leur ensemble ?
Non, mais il n'y a pas de risque de stigmatisation des musulmans, mais la société de la vigilance à laquelle chacun peut être attaché, faire attention simplement à ce qui se passe autour de soi, n'est pas la réponse. La réponse, c'est l'État qui doit la prendre en charge, c'est l'État qui doit assumer la protection des Français. Voilà des mois que nous répondons que le président de la République et son gouvernement ne protègent pas les Français. Force est de constater que c'est la réalité. Ils n'ont pas, comme l'avait dit Emmanuel Macron, inventé un plan pour lutter contre le terrorisme islamiste dans la nuit. Moi, je ne fais pas l'amalgame entre être de nos compatriotes de confession musulmane et être un terroriste. Je note simplement que nous avons un problème, plus qu'un problème, une menace avec l'islam politique dans notre pays et que le gouvernement n'en a pas pris la mesure. Il laisse des listes d'ailleurs communautaristes et islamistes aux élections européennes. Madame Maracineanu, la ministre des Sports, refuse de venir devant la commission qui enquête sur la radicalisation dans les services de l'État. Bref, le gouvernement n'a pas pris la mesure. Aujourd'hui, il demande aux Français finalement de faire son boulot à sa place. Voilà, nous sommes gérés par des gens qui ont sous-estimé la menace islamiste dans notre pays. Et aujourd'hui, ils essayent d'en faire porter la responsabilité aux Français. C'est un peu court.
Une dernière question, Sébastien Chenu, parce que la qualité de la liaison téléphonique n'est pas excellente. Est-ce que vous partagez cette réflexion? Je cite, un musulman qui vit en France et qui ne respecte pas les lois de la République ou s'oppose aux autorités françaises ne pratique pas l'islam authentique. Celui qui entre dans un pays a l'obligation de respecter les lois et la culture du pays où il est, sinon il doit le quitter.
Je pense que n'importe qui doit respecter les lois de notre pays. C'est pas une question de religion, c'est la question de... Nous avons des lois républicaines, elles doivent être respectées.
Parce que ces propos sont ceux du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohamed Al-Issa.
Mais je pense qu'il faut que chacun, vous voyez, c'est pour ça que je suis dans un accord absolu, puisque je dis que chacun, c'est pas une question de religion, doit respecter les lois de notre pays. En revanche, je pense qu'il faut révoquer toute personne qui a été dans le secteur public identifiée comme un islamiste radical, qui a été radicalisé. Je pense qu'il n'a rien à faire dans les structures de l'État.
Merci Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, je le rappelle, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Pierre Neveu. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, moins agité que la veille, même si le ciel restera encore bien nuageux, carrément humide sur le sud des pays, la Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin, le nord de l'Auvergne. C'est au sud que l'amélioration sera la plus franche. Quant aux températures, elles afficheront entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.